Je voulais être diplomate à cause de vous tous, éviter que ça en coule, mais maintenant c'est fini.
Au lendemain des émeutes, et après la dissolution des ligues fascistes, je conservais de fidèles adversaires à gauche, et je n'avais désormais que des ennemis à droite. Les cheminées des aciéries s'éteignent, et c'est grave pour un pays quand le ciel redevient clair au-dessus des centres ouvriers. Or, il fallait choisir entre la protection du capital et celle du travail. Je vous reproche simplement de vous être fait élire sur une liste de gauche et de ne soutenir à l'Assemblée que des projets d'inspiration patronale.
Il y a des patrons de gauche, je tiens à vous l'apprendre.
Il y a aussi des poissons volants, mais qui ne constituent pas la majorité du genre.
Une grève surprise, bravo. Monsieur Gratfouillère, vous êtes un meneur et vos petits camarades des inconscients. Vous semblez oublier en effet, mes amis, que vous n'êtes que des salariés, c'est-à-dire les êtres les plus vulnérables du monde capitaliste, des chômeurs en puissance.
L'ordre étant rétabli, je demandais les pleins pouvoirs et les obtenais. Mais sauf pour les dictateurs et les imbéciles, l'ordre n'est pas une fin en soi. L'ordre n'empêche pas le nombre des chômeurs d'augmenter, ni les faillites de se multiplier. Je suis anarchiste.
Nous allons repeindre la vie, lui donner une couleur tendre. Nous allons installer le printemps dans ce pays de merde.
Ah là là, dire qu'on finit tous de la même manière. Vous trouvez pas ça humiliant?
Oh là là, il y en a des choses affichées à la poubelle.
Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue sur Radio Canu, bienvenue dans ce premier Canu Info du jeudi de cette nouvelle saison. Bonsoir Laurent.
Bonsoir Delphine.
On espère que vous allez tous et toutes bien, vous avez vu, hein, le monde va bien. Oui, nous on s'absente de l'actualité, mais l'actu elle continue toujours, alors on va pas se mentir non plus, on a du mal nous-mêmes à faire... un break avec toutes ces informations, hein. On se tient au courant évidemment tout l'été de ce qui se passe un petit peu de partout, évidemment en France mais aussi à l'étranger. En tout cas, ce qui nous a fait bien marrer, hein, c'est cette annonce, Monsieur Sarkozy est donc candidat à la primaire de la droite pour la présidentielle 2017.
C'est une vraie surprise.
Une vraie surprise, effectivement, que nous pourrions commenter pendant une heure et demie, voire deux heures, comme certains médias, certaines télés qui n'ont que ça à faire. Donc, il a essayé de faire son petit buzz médiatique, et puis il a surtout son livre, Tout pour la France, une petite merveille que je n'ai pas encore eu le temps de lire, mais qu'il va falloir que je trouve. Oui, bah écoute, il nous fait un beau programme, hein, puisque bon, c'est que du classique, hein, c'est à bas les 35 heures, à bas la norme, à bas le code du travail... on va tout remettre à zéro et puis vous allez partir à la retraite, oula, on sait pas bien quand, mais tout ça c'est pour notre bien, paraît-il. Alors on verra le 15 septembre prochain si la rue lui répond comme elle répond, et elle a déjà répondu à monsieur Hollande et à sa clique. Sinon moi je vous propose d'aider NKM, madame NKM, à trouver des parrainages pour qu'elle soit elle aussi candidate à la primaire de la droite pour cette présidentielle, parce que bon, hein, plus il y aura de candidats, plus on va se marrer, nous de notre côté, c'est assez sûr. Et puis il y en a tellement qui veulent lui mettre des bâtons dans les roues qu'on a beau pas l'aimer, on souhaite quand même qu'elle y aille, juste pour voir ce que ça peut se passer.
Il n'y a pas d'autres femmes.
Non, ouais, ça, voilà, ça serait bon. Alors c'est vrai que Alice Cooper, de l'autre côté de l'Atlantique, nous a fait beaucoup plus causer, beaucoup plus rigoler, oui, finalement, avec sa proposition de devenir donc candidat à la Maison Blanche.
Il est un peu plus rock'n'roll que Donald Trump, quand même. Ah, et pas... nettement plus aussi que...
C'est pas le même genre, ouais.
Ouais.
En tout cas, ce qu'on aurait pu aussi développer dans ce canu, mais qu'on fera pas, c'est le départ de Monsieur Montebourg d'Habitat, hein, le magasin qui vend aussi des meubles. Il avait rejoint la stratégie, hein, de l'enseigne. Il paraît qu'il a fait du bon boulot, mais comme il se présente lui aussi à la présidentielle, il est obligé de quitter certaines de ses fonctions. Bon, on aurait applaudi aussi le petit parcours de Monsieur Macron, qui n'est pas socialiste, hein, il l'a bien dit. D'ailleurs, c'est pour ça que il est allé y rendre visite à Philippe de Villiers. Et oui.
Comme quoi, on peut s'asseoir
et causer et applaudir.
Ouais, puis il a des accointances du coup avec l'extrême droite, ce qu'on ne connaissait pas. On savait qu'il était ultra-libéral, on savait pas qu'il avait des accointances, des affinités avec l'extrême droite.
En tout cas, ce qui fait beaucoup causer au niveau politique, c'est évidemment la place de l'islam en France. C'est au cœur des discussions sur les primaires de la droite, mais ça aussi pose des soucis à la gauche, puisque nous assistons à une petite opposition entre Monsieur Valls et Mesdames Touraine et Valou Belkacem. Pour Valls, les arrêtés anti-Burkini ne sont pas une dérive. Alors, c'est cette affaire de Burkini...
C'est juste du racisme, d'ailleurs, c'est peut-être pas une dérive.
C'est du racisme. Alors, nous, évidemment, ça nous interpelle toujours ces actes de cette France blanche et masculine. Moi, ça m'interpelle parce que je trouve que dans les religions, et en particulier donc sur l'islam, on s'en prend qu'aux femmes, hein, on s'en prend au voile, on s'en prend donc à la manière dont ces femmes pourraient s'habiller sur une plage. Une chose à dire, c'est laissez-nous tranquilles, quelles que soient nos convictions, quelles que soient nos croyances, qu'on en ait ou pas, mais laissez-nous tranquilles. Parce qu'on s'en prend pas aux barbus. Hein, remarque, ça pourrait être une situation ubuesque.
Oui, parce qu'entre les hipsters et la barbe de hipster et la barbe de djihadiste, c'est pas tout à fait la même, ça va être compliqué à mettre en œuvre, les flics n'y arriveront pas.
Pourtant, ils le font pas, on s'en prend encore une fois à la femme. Finalement, quels que soient les sujets, c'est quand même nous qui sommes visés. Et puis, cette islamophobie cache le racisme de notre société. Hein. On a entendu parler de ces attaques sur la communauté chinoise, sur ceux et celles qui ont des traits asiatiques. Quoi, on pensait que c'était fini tout ça? On pensait qu'aujourd'hui, quand on est noir, quand on est asiatique, ben, on ne se fait pas encore tabasser dans la rue, on ne se fait pas encore insulter, on ne se fait pas discriminer? Ben si, bien évidemment. Ce qui se passe avec l'islam, c'est juste un moyen pour cette France blanche et masculine, comme je le disais tout à l'heure, ben d'être raciste, encore une fois, quelle que soit d'ailleurs leur religion aux uns et aux autres. Alors, s'il vous plaît, hein, mesdames, messieurs, arrêtez d'utiliser les femmes, arrêtez aussi d'utiliser la laïcité pour étaler votre racisme, ça serait déjà une grande avancée, hein. Ça irait peut-être un peu mieux, on pourrait peut-être voir cette élection présidentielle d'un meilleur œil, parce que pour l'instant c'est franchement mal barré. Oui, parce que la laïcité, elle est bien utilisée aussi, hein, avec tous ces arrêtés pour les plages françaises, hein, des arrêtés pour des tenues respectueuses, des bonnes mœurs et de la laïcité.
Et alors ça, le terme bonne mœurs, si ça ne fait pas référence à l'église, parce que ça c'est très, très présent en France, ce côté pudibonderie de l'église, c'était cette tradition judéo-chrétienne de merde, hein, qui dit qu'il y a certaines parties du corps qu'on ne doit pas montrer chez les êtres humains, parce que chez les animaux c'est plus compliqué, ils n'arrivent pas à les cacher encore, mais ils ont envie aussi. Voilà, ces arrêtés qui sont déjà en leur sein, qui contiennent de la morale religieuse nauséabonde, ils attaquent en plus une autre religion, c'est quand même se foutre de la gueule du monde. Et puis c'est juste, comme tu le dis, un instrument de racisme, parce que finalement chacun a le droit de s'habiller comme il veut. Bientôt on va interdire les gens qui ont des t-shirts Dutché, qui ont des keffiyeh. Alors parce que ces vêtements sont des vêtements qui représentent une idée, une religion, un avis politique. Et ben ça fait aussi partie de la vie de s'exprimer avec des vêtements. Il n'y a pas de raison d'interdire, parce que ça représente une idée politique ou une idée religieuse, parce que sinon on est mal parti, on rentre dans un système totalitaire à la Corée du Nord un petit peu.
Ouais, alors je vous laisse lire dans le Canard enchaîné de cette semaine le papier Twitter modère à sens unique, qui je trouve fait une très bonne synthèse de ce qui s'est passé sur ce réseau social en lien avec l'affaire de Cisco en Corse, où c'est pareil, on a commencé par doucement nous dire qu'il y avait une affaire de Burkini. Déjà, il n'y a pas d'affaire de Burkini, et en plus de ça, on voudrait aussi nous faire croire que certains Corses et certaines Corses ne sont pas racistes, si on sait qu'il y a toujours des ratonnades en Corse.
Ouais, puis le slogan des manifestants, c'est « On est chez nous ». Si c'est pas un slogan raciste, je vois pas ce que c'est d'autre.
Voilà donc pour cette introduction. On va commencer avec un pays dans lequel
le racisme est
la situation est bien compliquée, c'est la Turquie.
Tout à fait. Je pense que ça a été le pays qui a été le pire, hein, dans cet été. Alors on pourrait faire une échelle des valeurs entre les attentats revendiqués, instrumentalisés ou récupérés par l'État islamique. Enfin, la Turquie, c'est quand même un pays qui avait une tendance démocratique au départ, hein, qui est certes avait pris des coups ces dernières années et qui l'a à sombrer corps et âme. Alors je vais pas parler de ça directement, mais parler plutôt de l'offensive qui a débuté hier, hein, une offensive dite éclair, de quelques milliers de rebelles syriens soutenus par des F-16 et des chars de l'armée turque qui sont allés attaquer les méchants djihadistes de l'organisation État islamique, ce qui est assez nouveau pour la Turquie quand même. On rappelle l'hypocrisie du gouvernement turc qui a collaboré directement ou indirectement avec l'État islamique, notamment en laissant rentrer le pétrole en Turquie. Donc là, ils sont alliés à des rebelles syriens islamiques, pas des démocrates non plus, pour attaquer la ville syrienne de Jarabulus, qui est à l'ouest de l'Euphrate. Donc voilà, une grosse offensive hier, qualifiée de éclair, mais qui dure encore aujourd'hui. L'idée, c'est de mettre un terme, d'après les propos officiels de l'État turc, à l'instabilité de la frontière turque. Mais ça vise, on le rappelle, l'État islamique, mais en fait surtout les Kurdes, parce que c'est de ça dont il est question. Alors, cette incursion d'hier et d'aujourd'hui est soutenue par la coalition internationale, puisque on a les Américains notamment qui ont aidé en bombardant cette opération qui s'appelle Bouclier de l'Euphrate. Donc voilà, alors l'idée derrière tout ça, c'est d'attaquer les combattants kurdes des unités de protection du peuple, le bras armé du parti de l'Union démocratique, le PYD, qui dirige une partie de la région, on va dire, entre le nord de l'Irak, enfin la partie kurde de l'Irak et la partie kurde de la Syrie, qui sont plus ou moins reliés au PKK, le parti kurde séparatiste turc, qui est en guerre contre la Turquie et vice-versa depuis plus de 20 ans. Alors, c'est relativement officiel, puisqu'on a l'État, des officiels turcs qui disent que le but est de sécuriser la frontière et d'empêcher le nord de la Syrie d'être occupé par les Kurdes. On sait que les Kurdes, jusqu'à Kobané, ils ont sécurisé cette partie du territoire. Et ça, c'est déjà fait et ça énerve beaucoup la Turquie qui va empêcher que le reste de la frontière turco-syrienne soit sécurisé par les Kurdes. Donc c'est l'idée d'Ankara dans cette action militaire d'hier et d'aujourd'hui. Alors, on notera quand même que les djihadistes de l'État islamique et les milices et les combattants kurdes sont mis sur le même plan par les autorités turques. Ça, on le savait, mais c'est officialisé avec l'attaque d'hier. Voilà. Donc l'idée, vous avez bien compris, c'est d'empêcher la jonction de ces différentes régions. Il y a trois régions en fait de Syrie et pour empêcher la création de ce qui pourrait être un Kurdistan indépendant, ce que ne veut bien évidemment surtout pas l'État turc. Voilà. Alors ça pose question quand même sur l'attitude des États-Unis d'Amérique. Alors Joe Biden, qui est donc le vice-président américain, était en visite hier à Ankara pour soutenir la Turquie. Ils ont d'ailleurs le Washington a annoncé un soutien sans faille. Pour le citer, Joe Biden, il a dit « Nous voulons aider les Turcs à débarrasser la frontière de l'État islamique ». Certes, mais bizarrement, jusqu'à maintenant quand même, l'OTAN et Biden et les États-Unis d'Amérique ont plutôt soutenu les Kurdes. Et là, d'un seul coup, ils se mettent à soutenir les Turcs qui sont opposés aux Kurdes. C'est quand même une belle hypocrisie, un beau retournement aussi, quand on sait que c'est quand même les Kurdes qui se battent depuis des années contre l'État islamique dans cette partie du monde, alors que la Turquie, elle, a plutôt été condescendante, voire collaboré activement avec l'État islamique ou avec les djihadistes d'autres fractions présentes. Alors la question qui se pose aujourd'hui, c'est jusqu'où ira l'armée turque en Syrie. On pensait hier que ça serait une action unique, puisqu'ils ont appelé ça une action éclair, sauf qu'aujourd'hui la Turquie a à nouveau renvoyé des blindés, 10 chars, 10 véhicules blindés de transport de troupes, des ambulances aussi, des engins lourds, sont à nouveau passés, ont passé la frontière pour aller en Syrie. Donc voilà, ce qu'on note quand même, c'est qu'il y a un gros changement du côté des priorités turques, puisque jusqu'à maintenant, la Turquie demandait le départ du dictateur syrien, et aujourd'hui, ça passe derrière l'objectif de contrer, d'empêcher le développement des Kurdes dans cette région, ce qui... ce retournement de situation leur permet de renouer avec leurs amis, c'est-à-dire l'Iran et surtout les Russes, puisque c'était un point d'achoppement, le fait qu'ils soient pour le départ du dictateur syrien. Là, maintenant qu'ils ont mis cette revendication de côté, ils redeviennent amis avec la Russie et l'Iran. Donc voilà, c'est pas quelque chose de rassurant pour les Kurdes, qui luttent quand même au prix de nombreux morts dans cette région. Ce qu'on notera quand même, c'est le nationalisme turc qui est beaucoup beaucoup mis en avant. Alors ça se voit de différentes manières, ça se voit dans la presse turque, hein, qui ce qui reste de la presse turque, c'est une presse essentiellement nationaliste ou qui tient un discours nationaliste. Tout le reste a été fermé, puisqu'ils ont salué, par exemple ce matin, l'offensive de l'armée turque. Hein, oui, c'est bien, ils combattent les méchants djihadistes, on ne parle pas des Kurdes, bien évidemment. On notera, pour nous qui avons transité par l'aéroport d'Istanbul, une présence disproportionnée par rapport à d'habitude des drapeaux turcs. Hein, il y a une vraie volonté nationaliste forte du côté du pouvoir islamo-conservateur, comme on dit, hein, c'est de la droite dure, hein, c'est un peu l'équivalent de Villiers, hein, voire pire, voire voilà, les chrétiens intégristes membres du Front National, on est de ce côté-là. Et on a même eu dans l'avion de la Turkish Airlines, à l'aller seulement, retour s'est effacé, un beau discours expliquant le coup d'État en disant que Erdogan remerciait le peuple d'avoir soutenu l'État turc avec contre les méchants qui ont fait le coup d'État, défendre le coup d'État, bien évidemment, avec un beau et un énorme quand même discours nationaliste, ce qui laisse entendre quand même que c'est pas prêt de s'améliorer dans la région pour les démocrates turcs, hein, parce que y en a, hein, y a des partis démocrates en Turquie. Je vous parle pas des Kurdes, des quelques Arméniens qui traînent ou des autres, parce que enfin il y a quand même d'autres populations, hein, qui sont éparpillées comme ça en Turquie, de toute façon qui ont que le droit de se taire dans l'État totalitaire qui est en train de se créer en Turquie. Voilà pour ces infos sur cette région du monde, mais on va rester, on va partir en Afrique plutôt maintenant, je crois, c'est avec la Mauritanie.
Ouais, je voudrais revenir un petit peu, on va revenir sur ce qui s'est passé en Mauritanie cet été. Alors en fait, ça date, cette affaire, du 29 juin dernier, 23 personnes avaient été interpellées par la police lors d'une manifestation. Il y avait eu des affrontements. Ce sont tous des militants de l'initiative de résurgence du mouvement abolitionniste, c'est-à-dire des gens qui se battent contre toutes les formes d'esclavage. Et ils étaient donc au mois d'août en procès. La cour criminelle a déclaré, c'était le jeudi 18 août, 13 militants coupables de rébellion, usage de violence, attaque contre les pouvoirs publics, attroupement armé et appartenance à une organisation non reconnue. Ils ont été condamnés à entre 3 et 5 ans de prison ferme et puis à une amende de 94 000 euros. Alors ils sont 5 à avoir pris 15 ans de prison, 2 à avoir pris 5 ans et 6 à avoir pris 3 ans de prison ferme. Hein, c'est bien du ferme. Alors c'était qu'est-ce qui s'était passé sur cette manifestation? Il y avait des habitants d'un bidonville de Nouakchott.
Nouakchott.
Ouais, j'ai toujours du mal à le dire, excusez-moi, c'est les deux T qui me perturbent. Qui étaient menacés d'expulsion. Tout ça pour des raisons politiques, il y avait un sommet de la Ligue arabe. Et puis affrontement avec la police, ou plutôt la police va chercher ses habitants, va chercher les manifestants. Et on arrête un certain nombre, comme je vous le disais, 23. Ils ont été arrêtés et torturés. On rappellera quand même que la Mauritanie a pourtant intégré des choses, a signé, hein, contre la torture, reconnaissant que la torture est un crime contre l'humanité. Hein, mais, enfin bon, a priori, la Mauritanie s'assoit dessus. Il faut savoir que le procès s'est terminé sans les avocats de ces militants, puisque dès le mardi, ils avaient boycotté les audiences, estimant que il y avait des erreurs dans les procédures, en fait c'est même des violations, hein, de procédures tout simplement. Il faut savoir que c'est le ministère de l'Intérieur et des agents de police qui s'étaient constitués partie civile, qui étaient contre ces militants. Ces agents de police demandaient des dommages et intérêts, qu'ils ont donc obtenus. Alors, c'est une condamnation plus que sévère, hein, qui continue à enfoncer la Mauritanie dans une répression des droits de l'homme et des droits humains, plutôt. Alors, cette semaine, c'est l'Union européenne qui a réagi en condamnant ces condamnation. Il y a un communiqué qui a été rendu public ce mercredi. Voilà, c'est qu'une déclaration de plus de l'Union européenne. Je ne suis pas sûre que ça change grand-chose sur place.
Ouais. La Mauritanie, c'est le dernier pays qui pratique les formes traditionnelles d'esclavage, à l'ancienne, hein, on dirait, qui date du 19e, on va dire, et d'avant, alors qu'ils l'ont officiellement aboli, mais ça reste vraiment présent dans le pays, puisque, ça reste compliqué. On rappelle que l'esclavage n'a pas disparu. C'est la forme ancienne que tout le monde a mis de côté, qui est encore pratiquée en Mauritanie. Les formes modernes qu'on connaît avec les bonnes Philippines qui sont exploitées partout dans le monde, où les travailleurs philippins et autres qui se retrouvent au Qatar, en Arabie Saoudite, ça c'est des formes modernes d'esclavage, avec le capitalisme derrière. Mais là, la Mauritanie, c'est les anciennes formes traditionnelles. On a des esclaves dans les familles. C'est assez horrible d'imaginer que ça existe encore. Et si, ça existe encore en Mauritanie.
Ouais, l'IRA est très 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 active, et effectivement, c'est aussi pour ça que c'est une organisation qui en prend plein la gueule.
Ouais. Alors, on retourne au Proche-Orient et on va faire un gros point sur Israël-Palestine, sur ce qui s'est passé ces derniers jours. On va pas remonter très loin, mais il s'est passé pas mal de choses et des grosses et une énorme grosse surprise. Je vais commencer par ça, puisque aujourd'hui, ou hier plutôt, je vais être très, très exact, hier, ça s'est passé aux Nations Unies, c'est le coordinateur spécial adjoint des Nations Unies pour le processus de paix, je ne savais pas qu'il existait encore un processus de paix, au Moyen-Orient, il s'appelle Robert Piper, il s'est félicité hier des efforts menés en Palestine pour les prochaines élections municipales prévues le 8 octobre 2016. Mais comment ça, des élections ? C'est incroyable. Mahmoud Abbas est toujours opposé aux élections. Il n'est pas du tout démocrate dans son comportement. On le sait depuis un petit moment. Et non, ça y est, il a annoncé pour octobre des élections municipales pour l'instant. Donc ce coordinateur spécial adjoint des Nations Unies a salué la signature du code de conduite électorale par les différents partis politiques palestiniens le mois dernier. Les deux gros, qui sont le Hamas et le Fatah. On va revenir sur les forces en présence juste après. Donc voilà, c'est une bonne nouvelle. D'après ce rapporteur, ce coordinateur, l'organisation des élections locales semble confirmée, donc avec des normes internationales classiques de la démocratie représentative. Et ça pourrait, d'après lui, faire avancer la réconciliation palestinienne, ce qui est pas sûr. Hein. Ça, c'est un vœu pieux, peut-être. En tout cas, on rappelle que la dernière confrontation électorale entre le Fatah et le Hamas avait tourné à l'affrontement après la victoire du Hamas, le mouvement islamiste, aux élections législatives de 2006, qui avait mis fin au processus d'ailleurs. 10 ans après, les deux frères ennemis de la politique palestinienne vont à nouveau se défier dans les urnes, à voir ce qui va se passer. Et dans ce qui peut se passer, une bonne chose est apparue au mois d'août, c'est la création d'un troisième gros mouvement politique, enfin qui a l'ambition de devenir gros face au Fatah ou Hamas. Il faut rappeler quand même une chose, c'est que comme à beaucoup d'endroits dans le monde maintenant, malheureusement, c'est pas des couleurs politiques qui habitent les partis politiques, c'est des idées ethniques, religieuses. Alors là, c'est très religieux avec la Palestine, puisque le Hamas est le parti islamique. Voilà. Et ben justement contre ces partis qui représentent pas une couleur politique, qui ont pas un vrai pouvoir, un vrai programme politique, mais qui ont des pouvoirs sociaux, certes, mais religieux, un groupement de 5 partis de gauche palestiniens s'est créé. Donc ça, c'est une énorme nouvelle, parce qu'ils ont présenté un programme politique, pas religieux, pas ethnique, pas tout ce qu'on veut, mais un programme politique, comme on connaît dans les sociétés occidentales, ou comme ces pays connaissaient il y a 40 ou 50 ans, hein, on rappelle, même un peu plus longtemps que ça, il y avait de la gauche, il y avait des vrais programmes de gauche en Égypte, et puis dans plein de pays. Donc c'est une bonne nouvelle que cette création de ce parti pour ces élections du 8 octobre qui vont avoir lieu donc dans 300 municipalités, aussi bien en Cisjordanie que dans la bande de Gaza. Donc voilà, alors l'objectif de ces 5 partis, c'est de créer une force alternative au Hamas et au Fatah, et d'essayer de réunir les hommes et les femmes palestiniennes. Alors, on n'a pas encore l'intégralité du programme, mais ils ont donné quelques idées. Alors d'abord, le premier objectif, c'est la lutte, alors contre l'occupation, bien évidemment, mais ça, c'est inévitable dans une élection palestinienne. Ils veulent pas collaborer avec Israël, ils veulent redevenir autonomes et ils luttent contre l'occupation. La deuxième, c'est la justice sociale, et en particulier mis en avant, et ça c'est énorme, l'égalité entre hommes et femmes. Ce qui est l'antithèse du Hamas, un petit peu, et quant à l'OLP, donc quant au Fatah plutôt, l'OLP, ils sont dans l'alliance. Quant au Fatah, ils en parlent assez peu. même si les femmes sont plus présentes que dans le Hamas, qui contient aussi quelques femmes. Donc ça c'est important, et puis ils ont dans le début de programme annoncé leur volonté de donner un accès total à l'électricité, à l'eau, aux services sociaux, aux infrastructures minimum nécessaires aux êtres humains qui habitent dans les différents quartiers, donc l'éclairage, les ordures ramassées, enfin des choses comme ça. Donc c'est une bonne nouvelle que cette création de ce parti. Alors on n'a pas beaucoup d'espoir, hein, le dernier sondage avant la création de ce parti de gauche donnait 34% des voix au Fatah, 31% au Hamas et 9% à ces différents partis. Il y a 26% des électeurs qui restent indécis, et c'est sur ces 26% d'électeurs indécis que cette réunion de 5 partis qui va s'appeler l'Alliance démocratique a espoir. On rappelle qu'il y a une dizaine d'années, avant la montée du Hamas, hein, qui a été beaucoup aidée par Israël au début, hein, si vous rappelez pas que ce qui se passait, Israël a vraiment tout fait pour que le Hamas devienne fort, pour avoir un parti d'extrême droite contre lui, hein, ça donnait des justificatifs aux attaques. Ils y sont bien arrivés, hein, pour le coup, l'Israël a été très très fort là-dessus. Donc là, autrefois, il y avait des partis de gauche en Palestine. Donc ils ont bon espoir, cette alliance démocratique, de faire contrepoids. Alors même si, à cette élection-là, qui va arriver très vite, hein, c'est en début octobre, c'est dans quelques semaines, ils pensent pas faire aussi fort que les deux gros partis, mais ils espèrent avoir une existence reconnue. Alors, c'est pas gagné, parce qu'il faut qu'Israël accepte, hein, que le parti existe. C'est compliqué, parce qu'il y a une partie des membres de l'Alliance démocratique qui est en prison en Israël. C'est un peu compliqué, la politique palestinienne. Mais leur but, c'est d'être reconnu, de commencer à exister pour faire un travail sur le long terme et de réinstaller des forces de gauche, des forces progressistes. Hein, c'est un mot qui n'existe plus du tout en Palestine depuis une dizaine d'années dans cette région. Donc voilà, bonne nouvelle. Alors, je ne vais pas donner tous les partis qui font partie de cette alliance. Voilà, ça va des communistes à l'OLP. Donc voilà, c'est plutôt sympathique. Alors, autre nouvelle assez intéressante aussi, c'est l'attitude du Hamas. Qu'est-ce qu'ils vont faire pendant ces élections? Alors, ils ont annoncé qu'ils présenteraient des candidats partout, et notamment dans la bande de Gaza. Mais il n'y aura aucun candidat sous le nom du Hamas. Alors, ça a été la surprise, ça a été annoncé ce matin. Comment ça, aucun sous le nom du Hamas? Il n'y aura aucun candidat sous le nom du Hamas et aucun membre du Hamas connu qui se présenteront aux élections. Ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont soutenir des listes de personnalités, de candidats, sûrement proches d'eux, mais pas directement membres du Hamas. Le but étant que si jamais ils gagnent, eh ben, ils puissent gouverner et ils puissent être reconnus par et aidés par notamment l'Union européenne et les États-Unis. Puisqu'on rappelle que le mouvement islamiste du Hamas est considéré comme terroriste par Israël, l'Union européenne et les États-Unis. Donc ils veulent sortir de cet engrenage-là en ne se présentant pas officiellement, mais en mettant des candidats qui vont soutenir officieusement. Donc c'est la nouvelle attitude du Hamas qui a été donnée aujourd'hui. Et puis dans la série des petites nouvelles en lien, il y a des affrontements interpalestiniens, hein, qui ont eu lieu hier à Naplouse. Il y avait eu avant-hier la mort d'un Palestinien. Grosso modo, c'est des batailles entre des policiers palestiniens qui essayent de prendre des armes aux militants anticolonialistes, anticolonisation palestinien. Alors c'est glauque, hein, d'avoir ce genre de bataille. C'est pas la première fois, ça continue. Ce qui est bizarroïde là, c'est que c'est des membres des brigades du Fatah, donc le parti de Mahmoud Abbas, qui se battent contre les policiers envoyés par Mahmoud Abbas. Sur l'ordre d'Israël, bien évidemment, mais enfin voilà. On en est là. Donc il y a eu des batailles, des blessés, jusqu'à hier, les derniers affrontements datent d'hier. Et puis la bande de Gaza, eh ben, si ça bombarde un peu. Ça date un petit peu, c'était dimanche dernier. Une roquette est lancée de la bande de Gaza vers la ville de Sderot. Pas de dégâts ni de victimes. Mais en échange, eh ben, voilà, des raids, des bombardements de la part des chars qui sont postés le long de la frontière. Une réponse disproportionnée, comme d'habitude, pour faire pression. Avec donc, à l'heure d'aujourd'hui, au moins 4 blessés en réponse à cette tir de roquette dimanche dernier. Donc ça c'est en lien direct, et en lien indirect, bah, ce soir il y a un match de foot, pas à Lyon, mais à Saint-Étienne. Et il y a une manif qui est organisée actuellement devant l'hôtel de ville de Saint-Étienne pour s'opposer à l'équipe qui vient jouer. C'est l'équipe du Bétard de Jérusalem. Alors l'équipe du Bétard, elle est très connue et elle a refait l'actualité d'ailleurs cet été, puisque au milieu de l'été, 19 membres de la Familia, c'est un groupe de supporters du Bétard, qui ont été inculpés en Israël, vous imaginez, de tentatives de meurtre et de délits racistes. C'est quand même un truc énorme. Alors ce sont des ultranationalistes juifs qui insultent les Arabes, les musulmans, alors tous les gens qui sont pas comme eux, grosso modo, un vrai groupe d'extrême droite. Et donc cette équipe vient jouer donc à Saint-Étienne chez les Verts ce soir. Il y a des manifestations, j'espère qu'il y aura des militants et fans de foot de Saint-Étienne qui auront des banderoles contre ces supporters du Bétard et contre l'équipe, hein, qui est bien content d'avoir ses supporters, hein, parce que l'équipe, elle n'est pas détachée de ses supporters. Là où ils jouent à Jérusalem, le Teddy Stadium, le nom du stade maintenant c'est surnommé l'enfer, tellement que le climat est haineux envers les gens qui jouent. Et envers certains de leurs supporters. Voilà, on rappellera qu'il y a bien évidemment aucun arabe dans cette équipe. Pourtant, il y a 20% d'arabes à Jérusalem. C'est une équipe de Jérusalem. Enfin voilà, c'est une équipe raciste qui a des supporters racistes, bien évidemment. On notera que l'UEFA, l'instance européenne, n'a jamais rien dit contre le Bétard. Hein, bon, bah on les laisse jouer. C'est quand même la honte totale. Le foot et les instances du foot européennes continuent de soutenir le racisme de certaines équipes, et notamment de cette équipe israélienne. Voilà, c'est la fin de ces infos israélo-palestino-stéphanoises.
Alors, c'est JO, c'était bien ?
Ah, je sais pas, j'ai pas regardé, et je crois que c'était bien. Il y avait des problèmes de partout, il y a eu plein d'agressions, plein de vols. Alors, ah, c'est pas ça dont tu voulais parler.
Si, c'est vrai que bon, on peut dire quand même, ces JO, ça n'a pas été complètement l'euphorie espérée. Alors oui, il y a eu des problèmes de dopage.
Hein, oh, mais ça, c'est normal. Il y en a dans tout. Très peu, ils ont eu que 5 cas révélés, je crois bien.
Ouais, alors tu sais, c'est toujours un petit peu après qu'il faut attendre. Ouais, c'est jamais au moment même.
Je crois qu'ils ont tout fait pour qu'on en le voit pas, le dopage.
Ouais, on pourrait parler donc dopage, hein, qui est toujours conséquent, des stades et arénas quelque peu clairsemés quand même, il faut le dire. Et puis il y a eu ces problèmes des bénévoles qui ont quitté leur poste, qui ont abandonné les Jeux Olympiques, pouf, qui se sont barrés. C'est vrai qu'il y a aussi cette affaire avec Patrick Hickey, membre du CIO, président du Comité Olympique Irlandais. Il est soupçonné d'être impliqué dans un réseau de revente illégale de billets.
Ah oui, avec des grosses pépettes dans sa poche, a priori.
Ouais, pratiquement 3 millions d'euros.
C'est pas mal, hein, quand même. Ouais. Comme bénéfice.
71 ans, il est derrière les barreaux pour l'instant. Il y a eu des affaires, hein, aussi, la couleur de l'eau du bassin olympique des compétitions de plongeon, qui est passée du bleu au vert à cause d'une rupture de produits chimiques, n'est-ce pas ? Ça, c'était mignon. Il y a aussi cette affaire avec Twitter qui a décidé de radier un de ses utilisateurs qui avait diffusé une petite vidéo, ouais, un petit extrait, une vidéo considérée par Twitter comme illicite, puisque le réseau social, l'entreprise, la multinationale s'était engagée à bannir de ses pages tout extrait non payé, hein, globalement, il faut le dire comme ça.
Elle Twitter respecte toujours le capitalisme.
Ça, c'est sûr. Donc, voilà, toute image du JO devait être légale.
Par contre, vous pouvez être facho, insulter votre voisin, tenir les propos les pires du monde. Vous avez très très peu de chances d'être emmerdé. Par contre, si vous touchez à un truc avec des droits capitalistes, là, vous êtes foutu.
Alors, tu parlais d'agression. C'est vrai qu'on a entendu quelques petits problèmes au début de la compétition.
Il n'y a pas eu quelques viols
lorsque les athlètes sont arrivés. Alors ça, c'est plutôt au sein des athlètes et des compétiteurs qu'il y a eu quelques soucis, a priori. Des agressions sexuelles, où il y a des enquêtes qui sont en cours. Je vais plutôt parler de quelque chose qui, moi, m'a fait rire. Tu veux bien, parce qu'on ne parle pas toujours de trucs rigolos. Alors, ça commence avec Ryan Lochte. C'est un nageur des États-Unis d'Amérique. Avec ses coéquipiers, messieurs Benz, Conger et Fengen, tous médaillés à Rio, ils ont prétendu avoir été agressés par des policiers, des faux policiers, le dimanche 14 août, alors qu'ils rentraient de la bringue. A priori, ils avaient été passer de longues heures au Club France, dans un quartier plutôt Chicos de Rio. Ils avaient bien picolé, on va le dire comme ça. Et donc, ils ont raconté avoir été braqués. Alors, ça avait mis tout le monde dans l'embarras, en particulier les autorités de Rio, qui étaient déjà critiquées hein, pour la situation de violence de la ville. Et alors qu'il y a eu quand même 85 000 policiers et soldats hein, déployés pendant cette manifestation sportive. Et alors, en fait, ils ont été filmés dans une station-service. A priori, ils ont fait pipi sur les murs, vandalisé les toilettes, et ils se sont battus avec le vigile. Aucune agression n'a donc eu lieu. Alors, ce qui se passe quand même, c'est qu'il y a quelques répercussions à tout ça, puisque ce champion olympique, Ryan, va perdre ses sponsors. Le premier, c'est Speedo. Pour un nageur, c'est plutôt important, puisque c'est une marque de maillots de bain. Ça a été le premier sponsor à annoncer l'abandon du partenariat avec ce sportif. À la place des 50 000 dollars qu'il devait recevoir, cette somme va aller non pas à Ryan, mais à une organisation Save the Children, une association pour les enfants au Brésil. Donc c'est plutôt une bonne chose. Le deuxième très connu, c'est Ralph Lauren. L'entreprise a fait savoir qu'elle ne renouvellerait pas son contrat puisqu'il avait été signé pour ses JO. Donc voilà quelques conséquences. Mais là, j'ai l'air d'en rire, mais il faut savoir que malgré tout, les agressions, elles ont été réelles. Mais elles sont surtout dues à la police, puisque depuis le début de l'année, les homicides imputables à la police de Rio n'ont cessé d'augmenter mois après mois. C'est ce que nous explique Amnesty International. Alors, selon l'Institut pour la sécurité publique de l'État de Rio de Janeiro, donc quelque chose de très officiel, la police de Rio a tué 35 personnes en avril, 40 en mai, 45 en juin.
Ah ben dis donc, ça rigole pas.
Ah non.
Ouais, c'est une grosse ville, Rio, quand même. Hein.
Oui, bah alors c'est une ville qui a évidemment une histoire particulière avec la violence. Mais là, c'est bien, on parle bien de la police. Hein,
c'est la police qui assassine.
Qui assassine. Hein. Quelle que soit la personne en face, c'est pas ça que je suis en train de juger. Puisque les choses vont plus loin, hein, y a eu des opérations policières pendant toute la durée des Jeux Olympiques, dans plusieurs quartiers de Rio, et en particulier dans un certain nombre de favelas. Ces opérations ont fait 8 victimes, pour ce qu'on sait Amnesty International. Amnesty a lancé une petite application pendant les JO qui s'appelle Tir Croisé, Crossfire, qui permettait à Amnesty International de recevoir des alertes sur justement des violences armées dans les favelas. Les habitants d'un certain nombre de ces quartiers ont rapporté des intrusions dans les maisons, des menaces, des agressions physiques, et tout ça c'est dû à la police de Rio. Alors oui, certes, je le disais, c'est aussi une ville avec une certaine violence, mais c'est bien, encore une fois, la police dont je parle, il y a eu des manifestations pendant ces JO. Si les gens ont pas rempli les stades, c'est pas pour rien, c'est qu'il y a une situation sociale catastrophique au Brésil, qu'il y a des situations catastrophiques tout court. Hein.
Ouais, une situation politique extrêmement compliquée. Dilma Rousseff, ça y est, la procédure de destitution est enclenchée. Voilà. Non, la situation est très compliquée. Ceux qui ont pris le pouvoir à sa place sont des ultra corrompus, hein, donc ils sont largement pires qu'elle. Elle aurait peut-être triché sur une annonce. Mais pour l'instant, il n'y a pas de fait de corruption contre elle. Par contre, tous les autres en face, notamment la droite, est ultra corrompue. La situation est vraiment catastrophique pour la population. Hein. Les politiques sont à l'image de cette population. C'est-à-dire, c'est un peu n'importe quoi ce qui se passe au Brésil, avec bien sûr la droite et les capitalistes qui manigancent plein de choses par derrière, puisque eux, ils ont le pouvoir, puisqu'ils ont l'argent. Enfin, ils ont fait quand même des jeux pourris, malgré leur argent.
Ouais, alors c'est pour toutes ces raisons que les manifestants et les manifestantes sont descendus dans la rue. Les 5 et 12 août, la manifestation a été dispersée par la police, hein, qui a agressé les manifestants, il faut bien être clair. C'est bien la police qui est allée agresser les manifestants. Il y a eu des grenades lacrymogènes, des grenades assourdissantes, des manifestants ont été arrêtés. Pour ceux et celles qui avaient décidé de se rendre au stade, malgré tout, tenter peut-être de profiter d'une médiatisation. Ceux et celles qui avaient des banderoles, ceux et celles qui avaient des t-shirts se sont fait sortir des enceintes sportives. Ça a été direct. Voilà, donc les JO ont surtout permis d'accélérer une mise en place d'une politique sécuritaire. Il y a toujours plus de militarisation de cette politique sécuritaire. Il y a une répression très précise, très sélective qui se met en place, nous rapporte aussi Amnesty International, ça c'est aussi important, parce que c'est des personnes très précises qui commencent à être visées avec des groupes de militants et de militantes. Et puis un autre groupe qui est très visé, qui subit la discrimination, c'est les jeunes hommes noirs. Ah bah un petit peu oui. Partout dans le monde. La police s'en prend particulièrement à eux. Et puis, on pourrait se demander ce qu'on pense le CIO, hein, le Comité International Olympique. Et ben rien. Et tout ça avec le sourire, bien évidemment.
Et tout le monde est content juste qu'il y ait du sport. On rappelle que Teddy Riner, donc qui portait la flamme olympique pour la France, a été accueilli triomphalement à l'aéroport à Paris par des fans et reçu à l'Élysée, alors qu'il a, comme d'habitude, tenu des propos homophobes durant ces JO. On pourrait en citer plein des cas comme ça. Voilà, c'est quand même la honte totale qu'on accepte cette homophobie par ce sportif qui finalement et remarque. Ceci dit, il est dans l'esprit de Coubertin et des Jeux, c'est-à-dire un esprit très proche de ce que faisait l'Allemagne nazie, hein, puisque c'était le but de Coubertin, on rappelle. Hein, c'était avec des idées un peu horribles. Bon, c'est jamais très beau, les JO. Ceux-là n'ont pas fait exception à la règle, voire je pense qu'ils ont battu des records. On va passer un peu à une grosse rubrique autour de la question de l'art aujourd'hui, de la culture. Et on va commencer par les rencontres d'Arles, les rencontres photographiques.
Oui, nous sommes donc rendus fin juillet ce grand festival de photos et on y a vu plein de choses, on vous encourage à y aller, c'est un petit peu cher, nous le reconnaissons.
C'est toujours cher.
Mais franchement, si vous savez pas quoi faire et que vous avez un petit peu des sous dans votre porte-monnaie, c'est jusqu'au 25 septembre à Arles. Alors d'abord, nous on a commencé, on vous rappelle, ça se passe dans des lieux différents éparpillés dans Arles, et nous on a commencé par l'église Sainte-Anne. On aime bien commencer par ce lieu parce que souvent il y a des expos qui tout de suite nous intéressent. Et là on a commencé avec un grand photographe, Don McCullen. C'est un des plus grands photographes de guerre.
D'ailleurs, c'est
tout simplement.
On rappelle que les rencontres de Arles, c'est souvent des choses autour de l'art, de la photographie proche de l'art, voire de l'art contemporain. Là, lui, c'est un peu l'invité anachronique, la star anachronique, puisque c'est du reportage.
Et pourtant, il fait de la photo
même
absolument
si
fabuleuse. Évidemment, il faut se rappeler, hein, le Vietnam, Beyrouth, le Biafra, toutes ces photos qui nous ont marquées. Des images de guerre, mais c'est aussi un photographe de rue. Il est né à Finsbury Park, à Londres. Il a quitté l'école très tôt. Il a fait son service militaire, ce qui lui a permis de devenir photographe. Et très très tôt, il s'est lancé, effectivement, comme tu disais, dans le reportage photo. Mais on voit dans cette exposition aussi des portraits, les sans-abri, Londres, c'est-à-dire d'un seul coup une foule pauvre, précaire, sans travail, sans maison, et c'est des images en noir et blanc qui sont absolument magnifiques, qu'on lui connaît moins que évidemment ses photos de guerre. Et puis on découvre aussi dans cette exposition quelque chose dont on s'attend pas de sa part, c'est des photos de paysages. Il s'est mis à beaucoup photographier sa campagne anglaise, en particulier dans le comté de Somerset. Il vit dans ce comté. Et c'est très étonnant, c'est aussi à ça Arles, c'est de effectivement savoir nous montrer des photos que l'on connaît et puis de nous emmener vers autre chose qu'on ne connaît pas d'un photographe et d'un artiste. Et ces photos de paysages étaient très étonnantes à côté de ces photos de foule et de cette précarité anglaise.
Après, ça reste techniquement magnifique, hein, c'est des photos en argentique, noir et blanc, avec toujours un très bon cadrage. Enfin, c'est la quintessence de la photo noir et blanc. Tout le monde le connaît, on ne s'attendait pas à une expo pourrie de lui, quoi. Enfin, c'était pas possible.
Non, mais par contre, ceux et celles qui font les expositions peuvent parfois
se tromper.
Là, ce n'était pas le cas. Ces rencontres d'art nous ont permis, en tout cas moi, ça m'a permis de découvrir Syd Grossman sur une très belle exposition à l'espace Van Gogh. Ça s'appelle Du document à la révélation, photographie et influence de Syd Grossman. Syd Grossman, il a fait partie de la New York Photo League entre 1936 et 1949. Donc là, il faut remonter hein, sur le XXe siècle. Il faut savoir que Syd Grossman a été blacklisté par le FBI en tant que communiste subversif. Il a été mis à l'index en 49. Il a continué à enseigner la photographie. Il a réalisé après des photos plus personnelles, plus poétiques. Mais c'est vrai qu'il a aussi un regard très particulier sur la rue. C'est un cinéaste, un photographe de rue, sur les années 40 et sur les années 50. Beaucoup de photographies qui ont été faites à Harlem, à Chelsea, à Coney Island. C'est une nouvelle école de la photographie qu'on connaît peu, finalement.
Alors lui, il n'est pas du tout connu. Il a influencé pas mal de jeunes photographes dans les années 40-50. Et effectivement, on ne connaissait pas du tout son travail en Europe, ou très peu. Et là, l'expo, elle est importante, hein. Il y a beaucoup de photos et donc on découvre un petit peu tout ce qu'il a pu faire et ce qu'il a pu influencer par la suite avec ces idées de photos qui nous choquent pas du tout nous puisque ça se rapproche un peu des photos qu'on connaît sociales de rue qu'on a en France avec les plus connus, même Cartier-Bresson ou des gens comme ça.
Voilà, donc ça c'est à l'espace Van Gogh, et puis une autre exposition qu'on a beaucoup aimée, mais elle est jusqu'au 28 août au musée départemental d'Arles, au musée départemental antique d'Arles, c'est l'exposition Opération Condor de Joao Pina, une petite merveille, déjà c'est on a sur du grand format carré,
noir et blanc,
avec une installation dans la pénombre, on nous donne donc une petite lampe de poche pour aller parcourir cette exposition, c'est très émouvant. Opération Condor, je vous rappelle, une opération militaire menée en 75 par 6 pays d'Amérique du Sud, le Brésil, l'Argentine, la Bolivie, le Chili, l'Uruguay et le Paraguay, des dictatures militaires. Et Joao Pina a commencé un travail de recherche en 2005, c'est un jeune photographe qui s'intéresse vraiment à cette actualité. Il est allé s'installer d'ailleurs en Argentine, il est né au Portugal, et il nous parle de ces personnes arrêtées, torturées, assassinés et de ses disparus à travers cette exposition, à travers son travail photographique.
Alors, il y a déjà eu beaucoup de choses sur cette opération Condor. On rappelle, c'est les États-Unis d'Amérique hein, qui vont installer des dictateurs en Amérique du Sud. Hein, ça s'est fait partout. Donc là, c'est en Argentine. Et on voit, lui, voilà, il découvre, on a l'impression qu'il découvre ce qui s'est passé, parce qu'il est jeune, il n'a pas connu ces années-là, et il a donc un regard relativement neuf, et il fait des photos des gens qui témoignent, il fait des photos de plein de choses en lien avec ce passé lié à cette opération Condor, c'est-à-dire à l'installation des dictatures d'extrême droite en Amérique du Sud.
Si vous ne pouvez pas voir l'exposition, procurez-vous le livre, il est absolument magnifique, c'est assez cher, il faut le dire aussi, on ne va pas se mentir là-dessus, mais le livre est passionnant, et on en fait presque une histoire de ce que c'est l'opération Condor, et ça vaut tous les ouvrages historiques que je trouve. On a beaucoup aimé à l'atelier des forges l'exposition Mauvais genre de la collection de Sébastien Lifshitz. Magnifique exposition.
Ouais, alors ça c'est un peu dans l'air du temps, on va dire. Il s'accroche au débat qui a eu depuis 2 ans, lancé surtout par l'extrême droite religieuse, sur la question du genre, hein, avec des questionnements sur ce que c'est qu'un homme, une femme, le sexe qu'on a, le sexe qu'on a à la naissance qui est pas le bon, etc. Et là, c'est quelqu'un qui est spécialiste de ça, est le chef de l'exposition, et qui montre un petit peu à travers l'histoire de la photographie, c'est-à-dire des gens qui sont photographiés. Alors il y a quelques cas, tu as donné les noms, j'ai perdu.
Oui, on a beaucoup parlé de Bambi, hein,
voilà, parce
qu'il faut savoir qu'il a réalisé un film documentaire, Bambi.
Donc Bambi, c'est quelle époque ? C'est...
Alors, on est sur des photos qui vont de 1880 à 1980, donc il a un parcours photographique et une collection très intéressante. Et là, on est effectivement sur la fin du 19e, là on est le début 20e. En fait,
début
20e,
les années 20 et les années 30, où Bambi, donc c'est un homme au départ, qui se travestit, qui fait des spectacles habillés en femme. C'est les débuts du questionnement. Alors, c'est pas les débuts, j'imagine qu'il y en a eu avant, mais ça montre vraiment qu'il y a eu, à cette époque-là, quelque chose d'assez fort sur la question du genre. Donc on a ces vieilles photos de Bambi et d'autres artistes qui sont pas des trans hein, à l'époque.
L'exposition parle à la fois du fait d'être transgenre, mais aussi tout simplement du fait de se transvestir et de pouvoir simplement prendre du plaisir aussi à monter sur scène.
Et du coup, ça questionne vraiment le sens du genre, c'est-à-dire que on peut être un homme et avoir envie de s'habiller femme et vice versa, et sans changer de sexe. C'est beaucoup plus complexe que ne le laisse entendre l'extrême droite religieuse, et c'est beaucoup plus intéressant du coup d'avoir ces témoignages historiques, parce que du coup, c'est des vrais témoignages historiques à travers des photos de gens qui sont positionnés différemment des autres sur la question du genre.
Ouais, on vous invite à aller voir en parallèle l'exposition Une histoire de la misogynie, chapitre 1 de l'avortement de Laïla Abril. C'est une Espagnole. Elle s'intéresse aux femmes et dans cette exposition, elle nous parle de l'avortement. C'est une petite exposition puisqu'elle fait partie de ces photographes qui ont peu d'espace mais qui sont encore jeunes et à qui les rencontres d'Arles donnent aussi une vitrine. Elle a beaucoup d'expérience, hein, Laïla Abril. Alors, on va parler d'une expo qu'on a été voir à Ground Control.
C'est un nouveau lieu.
Beaucoup aimé. Oui, dans le cadre de ces rencontres, c'est un nouveau lieu qui a été utilisé hein, tout le reste du temps pour de. C'est une friche.
C'est une friche industrielle.
C'est le collectif Phénoména qui nous propose Réalité extraterrestre. Là aussi, on est souvent sur du grand format, de la très belle couleur. Un petit peu pastel, voilà, ouais. Et parfois aussi très contrasté, excusez-moi, et qui nous parle du phénomène OVNI aux États-Unis d'Amérique, donc au Nevada, au Nouveau-Mexique, dans l'Arizona. Ces trois artistes ont été rencontrer ces personnes qui pensent qu'il y a des OVNI, et puis font une vraie installation, une vraie exposition-installation.
Avec les idées de Roswell, hein, vous vous rappelez ce faux documentaire, voilà, avec les idées qui sont venues, il y a la zone 51 secrète de l'armée américaine, avec là où il y aurait eu des OVNI, etc. Et il y a toute une mythologie qui est construite par ces Nord-Américains.
C'est magnifique, c'est vraiment ça, c'est de la mythologie.
Et donc cette mythologie, on la voit à travers différentes choses, on la voit des fois juste à travers des portraits des gens qui y croient, et puis avec des éléments qui incorpore cette mythologie, un McDonald's en forme de soucoupe volante, enfin des choses complètement improbables qu'on connaît assez mal de ces gens qui s'inventent, voilà.
Ouais, eux, ils parlent d'histoires, de religions alternatives. ils cherchent à comprendre et à examiner le besoin de croyance des humains, donc ils se sont intéressés justement à la croyance sur les ovnis. Ils vivent tous les trois à Copenhague. C'est aussi de jeunes photographes, de jeunes artistes qui ont lancé plusieurs collectifs, plusieurs groupements comme ça. Qui sont en pleine explosion. C'est une expo qui est très intéressante, qui est très belle en plus.
Alors, il manque plein d'explications dans l'expo. Du coup, on se pose plein de questions et on a envie de chercher qui sont ces gens. Parce qu'il y a quand même des témoignages, des bouts de témoignages où des gens, une femme, elle dit, elle s'est fait violer par des extraterrestres. Enfin, je ne sais pas si c'est violé ou elle a eu une relation sexuelle avec des extraterrestres. Donc, elle a enfanté un truc entre deux, là, entre extraterrestres.
Qu'on lui a enlevé, évidemment.
Qu'on lui a enlevé. Enfin, mais ce qui est assez fort, c'est que c'est juste des photos, mais on a l'impression que ces gens ils y croient vraiment, et c'est peut-être la salle qui fait peur quelque part, c'est que ces gens ils croient vraiment qu'il y a eu des ovnis, ils croient vraiment que l'armée américaine a caché des trucs, enfin voilà, et c'est vraiment une très bonne idée. On y allait, on voulait pas y aller à cette expo, ça nous inspirait pas le thème, et quand on s'est retrouvé dedans, on s'est dit putain mais non, en fait ça marche, il y a vraiment des gens qui sont à l'ouest et qui croient vraiment qu'il y a des trucs comme ça, et c'est, du coup c'est à la fois drôle et intéressant.
Ouais, moi ce que j'aime bien c'est aussi que c'est entre l'installation et le reportage, c'est-à-dire une installation, parce qu'il y a vraiment de recherche aussi sur la manière dont tout ça s'est positionné, sur ce qu'on nous raconte aussi dans ces photos. Et puis il y a vraiment le reportage aussi, ils se sont déplacés, ils se sont penchés sur cette question de cette croyance, et tout ça est très très intéressant, et je pense que c'est des artistes qu'il faut continuer à suivre. Et puis dans le même lieu, parce que c'est pour ça que nous étions d'abord allés au Ground Control, c'est pour aller voir Tear My Bra, ça veut dire déchire mon soutien-gorge. C'est drame et fantaisie dans le cinéma de Nollywood. Vous savez qu'en Afrique, il y a un cinéma.
Énorme.
Énorme. L'industrie cinématographique nigériane est en pleine essor, en plein boom.
C'est la deuxième industrie dans le monde en termes du nombre de films. Je crois qu'il sort plus de 2000 films par an.
C'est des milliards de dollars qui sont brassés, alors que les films ne coûtent rien. Mais c'est vrai qu'il y a une consommation très importante parce que voilà, c'est une industrie aussi locale. Il y a pas que le cinéma d'Hollywood.
Ils auraient 150 millions de spectateurs.
Un truc de dingue. Ils ont des budgets tout petits, c'est peu réaliste.
Pas toujours.
Alors, c'est très clinquant.
C'est très clinquant.
Dans beaucoup de ces films. Ben, parce que vous avez à la fois des extraits de séries, des extraits de films, et puis de la photographie, des affiches. Donc on est vraiment sur une exposition voulant nous présenter c'est quoi de Nollywood, mais avec sa pêche. Alors là, je veux dire, c'est pêchu.
Ça pète dans tous les sens, les couleurs explosent. Ouais. Sans être caricatural, ça fait vraiment
non,
à l'africaine. On imagine bien le Nigeria comme ça, en fait, avec des choses qui partent dans tous les sens. Et les affiches de films, elles montrent ça. Et les histoires aussi. Mais c'est un cinéma qui n'est pas que un cinéma, parce qu'il y a beaucoup de grands stars. Alors c'est très féminin, Hein. Oui. Et contrairement au fait au cinéma d'aujourd'hui, on l'a vu avec le Ghostbuster de cet été qui s'est fait allumer parce que c'était des femmes qui étaient dans le film. Là, dans ce cinéma-là, il y a une pas mal de films où c'est les femmes qui ont le pouvoir, c'est les femmes qui font des choses, et donc il y a une réappropriation un peu de l'histoire du Nigeria, de l'histoire de la femme, à travers ces films qui sont souvent proches de la série B quand même. Mais il y a un petit truc derrière, hein. il y a une petite histoire, il y a un petit fond politique, un petit fond antisexiste, enfin voilà, il y a plein de choses intéressantes avec une folie assez incroyable, en tout cas, ce qui sort de cette expo photo, hein, en tout cas.
Oui, alors on a vu plein d'autres choses aussi intéressantes. On aurait pu vous parler de l'expo de Piero Martinello, Radicalia au Mistral, une toute petite exposition, mais qu'on a trouvé finalement assez belle. C'est pareil, on y allait sans savoir ce qu'on allait voir. Et il nous raconte l'histoire de gens qui sont à la marge, qui ont choisi des vies différentes, des vies radicales. Alors ça va du fou, du rêveur... celui qui va à la musique, rave, du criminel, des catholiques des mafios, fervents, ouais, du mafieux. Et il nous fait à la fois des montages photos avec aussi toute l'iconographie qui peuvent entourer certaines de ces pratiques radicales ou différentes. C'est une toute petite expo qui est plutôt sympathique à voir. Mais voilà, on aurait pu aussi vous parler de Lady Liberty au musée départemental, comment Bartholdi a construit cette chose, hein, qui a atterri aux États-Unis d'Amérique, cette voilà, avec un travail d'archives sur à la fois de la photo, du dessin, voilà, c'est aussi intéressant. Ça vaut toujours le coup d'aller aux rencontres d'Arles. Si vous y êtes jamais allé, c'est le moment. Si vous avez un peu du temps aussi, c'est le moment. C'est jusqu'au 15 septembre pour la plupart des expositions.
Et l'année dernière, on avait eu droit à une expo Charlie Hebdo. Cette année, on a eu droit à une expo Harakiri. Et, voilà. Moi, j'incite tout le monde à aller voir ça parce que aujourd'hui, dès qu'on montre un sein, c'est horrible. On doit arrêter. Dès qu'on fait de la provoque, annoncer de mauvais goût, annoncer ça choque des gens, ne doit plus jamais choquer quelqu'un. Et là, cette expo Harakiri, ça nous remet les idées en place. Et oui, on a le droit de choquer des gens. Oui, c'est bien de choquer. Oui, il faut apprendre à accepter d'être choqué, et de pas adhérer et de pas vouloir non plus interdire. Et voilà, ça nous remonte qu'ils ont fait des choses mais de mauvais goût, mais total, et qui sont quand même drôles. Voilà, c'était un témoignage des unes, de plein de photos de l'époque d'Harakiri, de professeur Choron, etc. Voilà, c'est sympa dans l'ambiance un petit peu pudibonde actuelle.
Ouais, c'est une expo avec les couvertures du magazine, et à côté, et souvent, il y a la photo et comment voilà. Tout ça a été fabriqué. C'est assez intéressant parce que c'est très très drôle à voir. Ouais. Parfois, pour eux, ça peut toujours être très très drôle, mais pour nous, c'était très marrant à voir. Voilà, donc pour ces rencontres d'Arles, on avait envie de vous parler cinéma ce soir. On ne le fait pas tout le temps.
Ouais, mais on ne va pas faire dans le film un télo ce soir.
Non. Non, parce que on va vous parler du film encore de Yoon Sung-ho, Dernier train pour Busan. Alors, moi j'ai une certaine passion pour un certain type de cinéma sud-coréen, pour plusieurs genres.
C'est pour ça que tu avais vu en début d'été le film qui s'appelle The Strangers.
Exactement, c'est ça ? Alors c'est pas le même genre.
Non.
Et puis, bah, oui, je peux vous l'avouer, mesdames et messieurs, auditeurs, auditrices.
T'aimes bien les zombies ?
J'adore les histoires de zombies, qu'elles soient dans les livres ou à l'écran, je trouve ça toujours excellent. Et alors là, je dois dire qu'on a vu un grand film de zombies, un grand film sud-coréen tout court. On sait.
Non, mais c'est un énorme film de zombies.
Beaucoup de plaisir.
Les derniers films qui sont sortis de zombies sont plutôt pourris. Alors la grosse dernière méga production américaine là qu'on avait vue là il y a 3-4 ans là, qui était horriblement nulle.
Oui,
il y a World War Z là.
Exactement. Qui osait reprendre un soi-disant ouvrage en n'ayant rien à voir. Enfin bon, passons.
Alors que le livre était bien.
Oui, le livre c'est sympathique à lire, c'est pas non plus de la grande littérature, faut pas pousser. Alors ce dernier train pour Busan, nous ça nous a bien plu. Son réalisateur est tout jeune, il est né en 78 et c'est son premier film qui n'est pas dans l'animation, puisque il a monté un studio d'animation qui s'appelle Dada Show, et ses deux derniers longs métrages étaient des films d'animation, et là il se lance sans l'animation, et c'est plutôt un lancement réussi. Alors c'est un gars plutôt engagé, hein, ce réalisateur. Ses courts métrages et ses films d'animation sont plutôt sombres. Il s'intéresse beaucoup à ce qui se passe dans son pays, et évidemment le dernier train pour Busan s'en ressent. Alors qu'est-ce que ça raconte ? Eh ben ça raconte l'histoire de plusieurs personnages, comme dans tout tout film catastrophe du genre, ça reprend tous les codes.
Après, le pitch, il est simple. Des gens montent dans un train, quelqu'un, un zombie
un
monte dans le train.
Un KTX, excuse-moi, le TGV sud-coréen.
C'est le TGV français adapté en Corée du Sud. C'est à peu près le même. Il y a des écrans en plus, c'est tout. Et le zombie monte dans le train part. Et voilà,
on se retrouve avec une.
Ça contamine tout le monde.
Et une palette de personnages.
Et c'est ça qui est intéressant dans le film, c'est les personnages.
Sokwoo, le père qui n'en fout pas une et qui ne s'occupe pas de sa fille Soo-han. Il a décidé donc de lui faire prendre le train pour l'emmener voir sa mère, puisqu'elle, elle en a ras-le-bol, elle voudrait bien retourner voir maman, puisqu'il ne s'occupe pas d'elle. Par exemple, il ne va pas à l'école quand elle doit chanter, il lui offre un cadeau d'anniversaire qu'il lui a déjà offert. Voilà. On retrouve aussi un couple. Dont la femme est enceinte et pas loin d'être à terme, avec le bon gars quand même, il faut le dire.
Un peu brutal quand même.
En mari, moi je ne trouve pas brutal, je trouve bon gars. Je lui ferai confiance tout de suite à ce gars. On retrouve le patron qui est évidemment sale abruti. On retrouve les personnages, et ça c'est très important quand on est allé en Corée du Sud, parce que ça marque, on retrouve le personnage, le personnel de bord. Ouais. Quand vous êtes dans ce TGV local, le personnel est extrêmement poli, comme de beaucoup il y a beaucoup de courbettes, et donc c'est très très drôle de le voir évidemment dans certaines situations. Vous avez les deux sœurs plutôt âgées, voilà, donc une ribambelle. Vous avez l'équipe de sport, on s'attend évidemment à ce que ils se fassent bouffer, je vous raconte rien, mais on s'y attend. Voilà, évidemment
ils sont tous bouffés de toute façon.
Donc je vous le disais, ça reprend tous les codes du genre du film de zombies, du film catastrophe. Il y a des rebondissements.
C'est haletant. Ça dure deux heures. À la fin, on a transpiré, on tient le fauteuil.
Et
on
ça fait jamais vraiment peur, mais c'est très haletant.
Ouais, mais c'est
haletant.
Ce qu'on notera, c'est parce que dans les films de zombies, il y a un peu deux écoles. Il y a le zombie lent, voilà. Et là, on est dans le zombie rapide.
Il court, le zombie, et puis il court. Je vous dis pas, il court. Alors
c'est
vrai qu'on retrouve
dynamique.
Aussi, et c'est aussi ce qui fait l'énergie, le dynamisme de ce film, c'est qu'on retrouve une violence caractéristique du cinéma sud-coréen. Donc, quand il y a un zombie qui se prend un truc dans la gueule, il se le prend pas qu'à moitié, et pour autant ça fait pas petit film gore pas très réussi, ça marche très très bien. Il faut savoir que le film n'a pas coûté très très cher. On en fait un blockbuster en Corée du Sud, même ici il sort dans des salles, de grosses catégories, hein, dans les multiplex, et on en fait un blockbuster, alors qu'à côté, franchement, vous prenez Monsieur Besson et ses films tout pourris, ils valent beaucoup plus cher. Vous prenez les films d'Hollywood dont tu parlais tout à l'heure, ces films valent beaucoup plus cher, et le cinéma sud-coréen arrive à faire du cinéma de genre de qualité avec beaucoup moins de sous. Il y a un autre genre aussi qu'on va retrouver dans ce film, un genre qui est très 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 coté en Corée du Sud, c'est le mélodrame. Les films à fleur de rose, alors ça pullule, c'est pas mon genre. Voilà, tout à l'heure je disais qu'il y avait certains genres que j'aimais beaucoup, ben pas celui-là. C'est un peu comme toutes ces séries qui se vendent très très bien, par exemple au Japon, ces séries sud-coréennes, on retrouve un petit peu ce mélodrame, mais finalement on retrouve le même dans le cinéma d'Hollywood et dans les films catastrophes. Simplement, il est vrai que ce mélodrame prend un petit peu une autre dimension. Le réalisateur nous parle de ce qui se passe aussi en Corée du Sud. On sait très bien que les pères sont pas censés être à la maison, sont pas censés s'occuper des enfants. C'est encore une réalité en Corée du Sud. La société est très marquée avec ses sexes, parce qu'on parle bien de sexe en Corée du Sud. L'homme et la femme, chacun a son rôle, et même si les femmes travaillent, on sait que c'est plus difficiles, qu'elles sont discriminées. Et les hommes, ben, en particulier quand ils sont cadres, et c'est le cas de ce trader, hein, enfin je l'appelle comme ça, mais c'est un truc dans le genre, c'est un financier, il s'occupe pas de sa gamine, et c'est aussi de ça dont nous parle ce mélodrame finalement, c'est comment toute cette situation va l'amener à devoir se surpasser, à être un peu meilleur, puisque le film finalement nous montre des monstres, mais c'est pas forcément les zombies, hein. Les monstres, c'est ce sale patron.
Ah, c'est le meilleur, lui, hein. C'est le meilleur monstre.
L'individualisme porté à l'excès, ça nous parle du libéralisme, hein, quelque part aussi. Alors, faut pas aller chercher non plus midi à 14h. C'est un film avec des zombies et des gens qui courent, soit sur les quais d'une gare, soit dans un train. Mais malgré tout, c'est vrai qu'on y retrouve aussi. Ça m'a fait penser un peu à The Host de. Je sais pas si tu te souviens de ce film catastrophe de Bong Joon-ho.
Avec une grosse bébête.
Non, c'était avec. Si, c'était ça. Ça fait un peu penser à ça. C'est-à-dire que malgré ces grands films catastrophes, là où le cinéma d'Hollywood, à mon avis, échoue. Le cinéma sud-coréen arrive quand même à traiter de sujets de politique et de sujets sociétaux locaux. Ça, c'est aussi intéressant. En tout cas, il y a une belle tension. On est meilleur film de zombies qu'on n'avait pas vu depuis longtemps, et pourtant, on peut vous dire qu'on aime bien s'en mater de trois de temps en temps. Voilà, c'est toujours à l'affiche. C'est pour ça qu'on vous en parle. Allez-y. Il y a une ribambelle d'acteurs qu'on trouve plutôt sympathiques. Certains que vous reconnaîtrez, peut-être, voilà, cet acteur principal, Gong-Hu. C'est un jeune acteur qui est aussi mannequin, qu'on voit dans des séries. Donc c'est la belle gueule hein, du film. Il faut aussi remettre les acteurs dans le milieu sud-coréen. Il a aussi tenté d'agrandir un petit peu son panel de jeux avec un film qui s'appelle Silence, par exemple, qui a fait beaucoup de bruit en 2011 en Corée du Sud, puisque ça parlait des agressions sexuelles sur enfants dans un certain nombre d'organismes sud-coréens. Il a joué aussi dans The Suspect en 2013. Enfin voilà, on retrouve Yeong Yumi qui jouait dans Bittersweet Life, un très beau film, je ne sais pas si vous en souvenez, qui était sorti en 2005. Enfin voilà, allez vous marrer, allez au ciné.
Enfin, vous allez, ouais, pas que vous marrer.
Ouais, bah, okay, vous allez être un peu tendu, mais ça ne fait pas peur. Je vous le dis, ça ne fait pas peur. Si vous avez peur, ça ne fait pas peur.
Ouais, je ne vais pas rire.
Mais voilà, c'est très haletant, c'est exactement le terme que tu as employé tout à l'heure. C'est exactement ça, ça fait vibrer un petit peu quand même et ça fait du bien.
Alors, pour continuer ce Canu Info, il va déborder un peu puisque les collègues suivants ont l'air d'être toujours en vacances. Un petit mot sur encore de la censure et encore de la pudibonderie mal placée, bien évidemment, puisque il y a une expo actuellement de Andrés Serrano. Alors Andrés Serrano, il est très connu hein, depuis les années 80. Il fait de l'art contemporain de provocation autour du sexe, de la religion, de la violence et de la mort. Souvent, c'est quatre thèmes mélangés, hein, c'est tout en même temps. Donc là, il y avait une expo hommage qui s'appelle Andrés Serrano Uncensored Photographs, donc le photographie non censurée, qui était organisée par le musée, les musées royaux des beaux-arts de Bruxelles. Et dans ces photos non censurées, il y a pas mal de choses un petit peu provocantes. Et il y a une artiste qui fait des performances qui s'appelle Deborah de Robertis qui a pris au mot les organisateurs de l'expo en disant, ben voilà, ils veulent montrer une expo ce que c'est que l'art, qui fait un peu de la provocation non censurée, et ben je vais faire une performance artistique dans le musée. Et sa performance c'était quoi? C'était mettre en scène une des photos les plus célèbres d'Andrés Serrano qui n'est pas présente malheureusement dans l'expo, et elle met en scène cette photo. Alors cette photo elle représente une nonne, les jambes écartées sans culotte, où on voit le sexe, hein, simplement ça, la pure provoque bien évidemment, vous imaginez. Donc elle l'a fait et voilà, elle s'est fait tomber dessus par tout le monde. Alors c'est filmé parce que elle explique bien que quand elle fait ça, c'est pour dénoncer. C'est pour d'abord, elle fait ça pour se marrer. Donc c'est le premier truc qu'elle fait. Elle dit que ça soit un peu drôle. Elle fait ça aussi pour provoquer en disant voilà, aujourd'hui il y a de la censure. Les gens sont choqués par des choses qui sont naturelles. Le sexe d'un mammifère, c'est un élément totalement naturel dans la nature. C'est l'être humain, notamment les religions, qui sont venus mettre des interdits sur la vision du sexe. C'est un truc très artificiel, très réactionnaire, bien évidemment. Donc elle veut démontrer ça, enfin dénoncer ça. Elle avait déjà fait, elle avait posé nue devant l'Origine du Monde, le tableau de Gustave Courbet, hein, qui est un tableau qui est protégé parce qu'il y a toujours des gens qui vont l'agresser, qui essayent de le détruire. C'est le tableau, c'est juste le sexe d'une femme, hein, ce tableau. Et le sexe d'une femme, c'est choquant dans un monde plein de pudibonderie et de religiosité. Donc elle avait déjà fait ça, elle s'est fait arrêter aussi, elle s'est souvent filmée, après elle met les vidéos sur internet et ça fait un petit peu du buzz. Là, ce qui la faisait marrer quand même, c'est le fait que ça soit une expo sur justement des photos non censurées et qui montrent la provoque. Et ben elle démontre qu'en fait ça s'arrête très vite, la provoque. Alors l'excuse du musée et de la, parce qu'ils sont venus l'arrêter et tout ça. Alors, il y a des choses très drôles, hein, l'intervention de la dame, de la gardienne, là, qui est embêtée, qui lui dit de se rhabiller, et puis voilà, qui appelle à l'aide parce qu'il y a une femme nue dans le musée, enfin, qui montre son sexe, voilà. Du côté des Beaux-Arts, du musée des Beaux-Arts, ils s'excusent. Ils disent, oui, on soutient toutes les démarches artistiques. Pour autant, il faut qu'elles respectent la sensibilité de chacun. Et quand on dit ça, c'est la mort de l'art. C'est-à-dire que, grosso modo, ils disent, il faut que ça ne choque personne. Or, n'importe quelle œuvre d'art va toujours choquer une personne. Si on décide que l'art ne doit choquer personne, il reste plus que des photos de chats. Hein, parce qu'on montre un tableau avec des naufragés, ah oh, c'est horrible, moi je suis choqué, hop on l'interdit. N'importe quel tableau, si vous prenez, ou 99% des tableaux, peuvent choquer une personne sur les milliards d'individus de la planète. Donc il ne faut jamais utiliser cette excuse. Oui, l'art peut choquer, doit choquer peut-être, en tout cas, le fait que ça nous choque, ça ne doit pas entraîner de l'interdit, ça doit entraîner de la réflexion. Et donc le conservateur du musée qui parle, lui, il est déjà du côté des réactionnaires. Alors ça fait un certain nombre d'années hein, qu'on a ce discours réactionnaire très axé sur l'inspiration judéo-chrétienne pour nous, et je vous parle pas de l'islam, hein, puisqu'il est hors de question de montrer des choses comme ça dans les pays musulmans, hein. On rappelle l'histoire des statues de David et autres, hein, où on voit un homme nu qui sont couvertes quand des dignitaires des pays du Golfe viennent en Italie, hein, ce qui est quand même bizarroïde, d'avoir peur de montrer le mammifère qu'est l'être humain, l'homo sapiens sapiens, dans ce qu'il est de plus naturel, c'est-à-dire nu, ça choque, c'est religieux. C'est pudibond. Donc voilà, moi je trouve c'est marrant ce qu'elle fait. Il faut continuer de faire de la provoque comme ça. Bon, elle risque rien, elle est expulsée du musée, elle est rhabillée. Voilà, mais c'est intéressant qu'il y ait toujours des gens voilà, qui continuent de faire ce genre d'action, qui ont beaucoup plus de sens aujourd'hui, qui n'en avaient plus dans les années 80. Hein, c'est ce genre de performance n'avait aucun sens dans les années 80, où la pudibonderie avait beaucoup reculé, où les religions étaient beaucoup moins importantes, avaient beaucoup moins d'influence. Et depuis le début des années 2000, on a ce retour du religieux et de la censure, hein, et de toutes ces choses qui choquent ces croyants monothéistes, hein, puisque c'est essentiellement du côté des monothéistes que ça se joue. Ben voilà, ça fait plaisir, un peu de provocation gratuite comme ça, mais qui nous questionne. Et c'est ça le but.
Oui, alors moi je voudrais vous parler du combat de Peter Deuil. C'est un plasticien, il est plutôt connu, ça vaut plutôt cher hein, ce qu'il fait. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'il y a un vendeur qui avait décidé de mettre aux enchères une peinture soi-disant attribuée à ce plasticien. Sauf que Peter Deuil, il s'y est opposé. Pourquoi? Parce qu'il nie être l'auteur de cette œuvre. Donc le vendeur a décidé de vendre une œuvre qui ne serait, d'après l'artiste, pas de lui, pas de sa main. Le tribunal de Chicago, qui donc avait reçu cette plainte, a donné raison à Peter Deuil dans ce procès. Alors c'est assez inhabituel, hein, il faut le dire quand même, ce genre de rendez-vous. Mais la justice a décidé que des artistes pouvaient s'opposer à des ventes, tout simplement parce que il fallait à un moment bien admettre que certains artistes de renom pouvaient s'opposer à ces ventes. Le problème, c'est quand même qu'il a dû, lui, je m'embrouille un peu, Peter Deuil, prouver qu'il n'était pas l'auteur de cette œuvre. C'est quand même assez incroyable. Alors, bon, c'est plutôt bien, hein, cette chose. C'est-à-dire que le tribunal de Chicago a donné raison à l'artiste contre le vendeur, qui avait quand même, il faut le dire, décidé de faire un peu de la thune sur un artiste bien placé à la cote, à la vente. Donc c'est plutôt une bonne chose. Par contre, c'est vrai que là où on peut s'inquiéter, c'est de savoir jusqu'où on va judiciariser ce genre d'opposition, parce que les vendeurs sont de plus en plus agressifs hein, dans le marché de l'art, et que tenter de vendre une œuvre d'un artiste connu, eh ben c'est toujours un bon coup, surtout quand à la base on l'a peut-être pas payé bien cher. Donc voilà, c'était pour vous raconter un peu que bah, dans l'art aussi il y a des profiteurs, que les artistes sont obligés d'aller, enfin de se battre en justice pour faire savoir que ce n'est pas leur travail. Alors là, en l'occurrence, il s'agirait d'un travail de Peter Deuil, mais avec un E.
C'est pas le même.
Non, qui serait pas le même. Non, ce serait bien effectivement signé Peter Deuil, mais c'est un gars qui n'a rien à voir avec cet artiste plasticien. Sa sœur a d'ailleurs reconnu hein, l'œuvre, ce qui a beaucoup aidé Peter Deuil face au tribunal. Mais voilà, c'est une des nouveautés aux États-Unis aussi, c'est d'attaquer les artistes, tenter de faire du profit sur leur dos à tout craint. Et puis, si tu veux bien, je vais terminer par un truc moi, qui m'a fait un petit peu sourire. ça concerne un film qui s'appelle Arrival. Alors en français ça s'appelait Premier Contact, ça va sortir le 7 décembre prochain. C'est un film de Denis Villeneuve. Denis Villeneuve, il a fait Sicario. C'est son, enfin entre autres, c'est son dernier film en date. Alors qu'est-ce qui m'a fait marrer, c'est que maintenant quand on sort un film, on sort plus juste une affiche par pays de diffusion, on sort tout une ribambelle d'affiches. On fait du marketing autour, évidemment, de la sortie d'un film. On veut faire du buzz, comme on dit. Alors, là, il y avait 12 affiches, hein, prévues, qui sont de partout, hein, sur la planète, puisque ce film parle de science-fiction. Oui, oui, oui. En fait, c'est une histoire d'extraterrestres qui arrivent sur Terre, et donc les affiches montrent des coins du globe où les extraterrestres seraient arrivés, et ce qui a provoqué un petit incident pratiquement diplomatique, c'est que sur une des affiches, on voit la baie de Hong Kong. C'est beau, la baie de Hong Kong, il y a des beaux immeubles, tout ça, tout ça, et on y voit quoi? On y voit la perle de l'Orient, sauf que la perle de l'Orient, elle est où? À Shanghai, en Chine. On va me dire, oui, mais Hong Kong, c'est la Chine, peut-être, mais Hong Kong, il n'y a pas la perle de l'Orient. Donc, ça a été un vrai phénomène, hein, sur Internet, sur les réseaux sociaux. Denis Villeneuve, le réalisateur, a dû s'excuser. Bon, il s'est un peu... il a peur envoyé la balle, hein, sur les créateurs de cette série d'affiches, qui sont d'ailleurs pas terribles, autant le dire tout de suite. Je sais pas ce que ce film va donner, d'ailleurs, mais voilà, enfin, c'est intéressant comme une erreur culturelle peut provoquer un incident diplomatique. Enfin, une erreur. La culture peut être un danger, une source de confrontation, et on ne répétera jamais, la culture, c'est important. Et voyez, même avec un film comme ça, la géopolitique, ben, ça apparaît comme étant absolument nécessaire de bien connaître sa géopolitique, parce que sinon on fait des bourdes. Et à Hong Kong, on peut penser que les films n'iront peut-être pas, les gens n'iront peut-être pas voir ce film en particulier. Peut-être qu'ils seront peut-être un petit peu fâchés. Et puis alors, on aura remarqué aussi que nous, on peut pas avoir Arrival, on a Premier Contact. Alors oui, il y a un vieux film tout pourri qui s'appelait The Arrival, mais comme tout le monde l'a oublié, c'était peut-être pas très très gênant. Mais voilà, Premier Contact, c'est un beau nom à la française.
Voilà, ce sera la fin de ce premier Canu Info de cette nouvelle saison. On reviendra la semaine prochaine. Je suis pas sûr que les autres Canu Info soient déjà revenus. Normalement, c'est tous les jours de la semaine, 19h-20h. Dans la série des petites censures qui nous font rire, on notera que nous avons publié un article sur Rebellion qui n'a jamais été publié. C'était il y a 5 jours.
Non, mais tout ça, c'est parce qu'en fait, Laurent aime bien vous informer. En fait, c'est ce qu'il veut vous dire. C'est qu'il vous raconte plein de trucs sur Internet et qu'il faut se rendre parfois sur la page d'accueil du site où les émissions ont la possibilité. Mais là, c'est les vacances, donc ça n'a pas été fait. Enfin, vous y avez sur les blogs, il y a des informations qui apparaissent. Et puis, sur le site internet, tu voulais mettre une petite news?
Non, sur Rebellion, j'ai publié un
sur Rebellion, tu voulais
qui n'a jamais été publié.
Oh, bah c'est pareil, voilà. Il devait être en vacances peut-être.
C'est ça, ouais, en vacances. L'actualité, il n'y a pas de vacances.
Vous pouvez aller nous retrouver, effectivement, on met plein d'infos, Laurent met toujours plein d'infos, parfois en news sur le site internet de Radio Canu.
Sur les blogs, oui.
Et puis sur les blogs, évidemment, vous pouvez nous retrouver, hein, sur le blog du Canu Info du jeudi, on met les émissions en ligne, on vous met en général la petite liste des sujets que nous traitons, et voilà, donc c'est réécoutable
n'importe quand, n'importe où.
Voilà.
Et ceci dit, vous pouvez réécouter le dernier Canu Info sur Rebellion. Ils nous censurent nos articles, mais ils n'ont pas censuré le Canu Info. Vous cliquez, il y a une petite icône en haut à droite, et vous tombez sur le dernier Canu Info enregistré. Donc d'ici 5 minutes, ça sera le nôtre, parce qu'il n'y en a pas eu depuis quand même 3 semaines au moins, des Canu Info, j'ai l'impression, puisque la rentrée, beaucoup de gens sont partis en vacances, et la rentrée...
C'est la semaine prochaine.
Voilà,
en fait.
Ça commence tout juste, quoi. Voilà. Restez à l'écoute de Radio Canu. On espère que les bandes continues refonctionnent. Parce vous avez peut-être entendu, il y a eu un blanc pendant une journée, quelque chose comme ça, où il n'y avait pas eu trop d'émissions et on a eu un ordinateur qui a cramé. Mais c'est réparé provisoirement et ça sera réparé, j'espère, définitivement. Donc voilà, Radio Canu refonctionne. Ne vous inquiétez pas. On est encore et toujours là.
Eh ben, à la semaine prochaine.
Bye bye.
Ciao.
Et Kenny Arcana, l'ordre mondial.
On tombe sur une annonce, au moment où on lance les bandes, c'est pas toujours très cohérent. Allez, un peu de musique.